Eh bien, c'est parti. Denis Raisin d'Adre, c'est ça,
c'est ça.
Pardon, pas d'Andre, d'Adre. Vous êtes là aujourd'hui avec nous pour nous parler musique, et pas n'importe quelle musique, puisqu'il s'agit de musique de la Renaissance. Alors, avant de parler et peut-être développer le concept, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même et après parler de ce que vous avez créé, Douce Mémoire?
Alors moi je suis tout simplement donc un musicien, j'ai créé Douce Mémoire il y a de ça 30 ans, j'étais à Paris à l'époque, à une époque où on faisait surtout à Paris d'ailleurs de la musique baroque, c'est le grand moment de l'envolée de la musique baroque, donc la musique du 17e et 18e siècle, et moi je me suis consacré à une période qui était beaucoup moins connue, qui était le 16e siècle, 15e et 16e, qui est la musique renaissance, on est très peu dans le monde à faire ce répertoire. D'où l'intérêt, c'est un peu une musique de niche, on pourrait dire aujourd'hui, mais ce qui nous permet de jouer dans le monde entier, ce qui est très intéressant.
Alors la musique de la Renaissance, peut-être qu'on va pouvoir la définir. Qu'est-ce que ça signifie ?
Bah, ça signifie pour les gens qui nous écoutent simplement la musique qu'ils pourraient entendre quand ils visitent tous les châteaux qu'il y a en région Centre-Val de Loire, car nous sommes dans une région qui est très marquée par la Renaissance, à tel point que d'ailleurs en 2019, on va fêter la commémoration de la mort de Léonard de Vinci, hein, qui est mort en mai 1519, et c'est une région très marquée par la Renaissance, qui est connue dans le monde entier. Or, le monde n'était pas silencieux à la Renaissance, les gens faisaient de la musique, donc mon but c'est de restituer les sons, puisqu'on parlait de sons tout à l'heure, mon but c'est de restituer le son de la Renaissance.
Les sons de la Renaissance, alors concrètement c'est proposer les musiques qui divertissaient le roi, la cour, etc. à l'époque, on est bien d'accord.
Oui, justement pas seulement, c'est-à-dire à la fois, évidemment la musique était pratiquée à la cour, évidemment dans l'entourage du pouvoir royal, mais aussi qui était pratiquée dans la bourgeoisie, puisque c'est une époque de grand développement de la bourgeoisie, des gens des bourgs, hein, de cette nouvelle classe sociale qui se développe beaucoup au 15e ou au 16e siècle, et puis aussi faire entendre, alors c'est plus difficile, ça demande un grand travail de recherche, la musique qu'on pouvait entendre dans les rues, dans les bals, dans les fêtes, enfin la musique dans toutes ses acceptations, et évidemment la musique sacrée, puisque la musique sacrée était très importante au XVIe.
Alors c'est intéressant que vous parlez de recherche, puisque j'imagine que c'est aussi la base de votre travail, puisque pour savoir quelle musique était jouée à l'époque, pour la reproduire, il faut déjà savoir qu'est-ce qui était joué à la Renaissance, non ?
Bah, la grande différence d'un pianiste qui veut faire un récital Beethoven et qui va chez le magasin de musique, enfin Beethoven, il va sur internet, hein, c'est encore plus simple, et qui achète ses 3 sonates de Beethoven, moi je suis obligé de faire un travail énorme de recherche en bibliothèque, en effet. C'est à la fois la contrainte de ce métier et l'aspect passionnant de ce métier, puisque depuis 30 ans, j'ai le sentiment d'être vraiment quelqu'un qui est sur ma caravelle et qui découvre de nouvelles terres. Et ça, c'est quelque chose qui, toute ma vie, m'a beaucoup excité, car je passe mon temps, avant c'était dans les bibliothèques, maintenant avec Internet, on a accès plus facilement, évidemment, à tout ce qui se trouve dans les bibliothèques, et on découvre beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'il y a énormément de musiques qui ne sont pas faites.
Vous avez dit, vous avez évoqué 30 ans, ça signifie que Douce Mémoire, ça a environ 30 ans, c'est ça ?
On va fêter en 2019 nos 30 ans au Grand Théâtre de Tours, oui. On fait régulièrement des anniversaires qui sont des fêtes à tout casser d'ailleurs, et qui d'ailleurs marquent l'esprit des spectateurs, parce qu'on fait des choses complètement démentes pendant ces fêtes. La dernière fois, on a tourné une sorte de film Bollywood au Grand Théâtre de Tours, je crois que les personnes s'en souviennent. Et là, je ne veux pas dévoiler ce qui va se faire, mais en 2019, on va faire un grand coup pub, oui, sur ces 30 ans qui vont être assez étonnants, je crois.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire finalement de la musique de la Renaissance à l'époque, c'est-à-dire en 1989, pour créer ça ?
J'ai voulu faire ça. Alors peut-être j'ai un esprit de contradiction, parce que je vais toujours là où les gens vont pas. Donc tout le monde sait de la musique classique ou de la musique baroque. Je me dis
oui,
pourquoi.
C'était inédit peut-être.
C'était inédit. Il y avait cet aspect-là. L'autre aspect, c'est que j'ai quand même été toujours passionné par la peinture du XVIe siècle, par la littérature, par comme les grands génies de l'époque qui peuvent s'appeler Rabelais, qui peuvent s'appeler Erasme, bien sûr. Et puis Ronsard et compagnie, et puis enfin toute l'histoire qui est passionnante au XVIe siècle. Et je comprenais pas, en lisant des biographies de tous ces grands personnages, à quel point la musique n'existait pas. Donc je me suis dit, donc ils vivaient dans un monde silencieux, ces gens-là. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que pouvait entendre Michel-Ange en peignant la Sixtine ? Qu'est-ce que pouvait entendre Léonard de Vinci en peignant la Joconde ? Et je suis tombé devant une sorte de grand vide, quoi. Et je me suis dit, c'est peut-être notre rôle à nous musiciens de révéler à nos contemporains justement le son du XVIe siècle. Et là, je suis tombé devant vraiment un projet de vie, quasiment, puisque je m'y consacre depuis 30 ans.
Vous avez une équipe, j'imagine, évidemment, et un nombre de musiciens. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Vous êtes combien à jouer au sein de Douce Mémoire ?
Ben, ça varie pour coup. Par exemple, hier, j'étais à Paris où on était 14. On peut faire des concerts à 19, on peut faire des concerts à 3. Tout dépend, évidemment, de la musique que nous faisons. Si on fait de la musique sacrée, on est souvent beaucoup, parce que, évidemment, les grandes messes demandent du personnel, si je puis dire. Si je fais de la musique de chambre, on est moins. Si je fais de la musique dans la campagne de la région centre, par exemple, d'une toute petite programmation, vraiment dans des coins reculés de la région centre-Val-de-Loire, on peut être 3, et c'est génial, parce que dans cette formation, on peut les jouer quasiment dans des cours de ferme. Donc c'est extrêmement variable, on est parti à Hong Kong, on était 14. C'est en même temps le plaisir de cet ensemble, c'est qu'on peut passer d'une toute petite formation de musique de chambre à des formations plus importantes. Donc c'est la variété chez nous qui fait qu'il n'y a pas d'ennui aussi.
Vous avez évoqué Hong Kong parce que vous êtes habitué à aller à l'étranger pour jouer. Vous avez même joué au Palais des Sultans à Istanbul. Est-ce que vous gardez des souvenirs, et si oui, lesquels de ces voyages à l'étranger?
Des souvenirs incroyables parce qu'on a vécu des choses tellement folles. Par exemple, à Istanbul, je me rappelle très bien, on était en train de jouer et tout d'un coup, on a entendu les muezzines qui faisaient l'appel à la prière. Et là, j'ai eu un moment de saisissement. D'abord, d'une part, c'était très beau. Et d'autre part, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis tourné vers Kutsiyar Güner, qui est le grand joueur de ney turc qui était avec nous. Et je l'ai interrogé du regard. Et je lui ai dit, est-ce que je peux continuer? Est-ce que ça fait un scandale qu'on puisse continuer à faire de la musique, même s'il y a l'appel à la prière? Ou est-ce qu'il faut qu'on arrête? Et il a hoché la tête. Il m'a dit, vas-y, on continue. Donc voilà, ça, je m'en souviens. J'ai eu une émotion incroyable. On a joué dans les missions jésuites en Bolivie, au milieu des enfants indiens. Et pendant la Semaine Sainte, on était entouré que d'Indiens et on avait l'impression d'être au XVIIe siècle. C'était absolument impressionnant. On a joué sur une barge au milieu du lagon du Pacifique devant un hôtel à Tahiti. On a joué à Taïwan devant le grand musée de Taïwan, qui est la reproduction de la Cité Interdite, devant un public entièrement taïwanais et chinois. On a joué au fin fond du Texas dans la Nouvelle-Orléans.
Ah oui.
On a joué au Texas dans un public qui connaissait rien à la musique ancienne. On a joué à la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez, on a joué partout dans des coins absolument des gens qui n'avaient jamais entendu de musique évidemment de la Renaissance et qui venaient sans a priori et toujours avec un étonnement, une passion. On a joué en Amérique latine avec un public extrêmement jeune, puisque nous sommes sur une radio qui s'adresse aux jeunes. Dans les pays étrangers, on joue en général devant des publics extrêmement jeunes, des gens passionnés par la France, des gens passionnés par l'histoire de la France. On s'aperçoit que la France a vraiment encore vraiment un poids culturel incroyable dans le monde entier, et les gens viennent nous écouter parce qu'on vient de France, et c'est pas n'importe quoi de venir de France, et on est porteur de tout ce passé, de tout ce patrimoine qui quelquefois est ignoré par les jeunes d'aujourd'hui en France, mais qui en fait ont une valeur extraordinaire à l'export.
Alors comment ça s'est fait justement, ces voyages? Comment on vous a démarché pour aller jouer dans tous ces coins-là? Est-ce que c'est vous qui avez fait une promotion à l'international et on vous a démarché après, ou on est venu vous chercher?
Ça commençait par la reconnaissance d'une institution qui s'appelait l'AFA à l'époque, et qui s'appelle maintenant l'Institut français, qui est donc une association qui promeut justement l'export de la culture dans le monde entier. Ils nous ont entendus, ils ont trouvé ça très bien, très intéressant, très original. Et donc ils ont parlé de nous à l'étranger, et à partir de là, on a été invités, et puis on a continué les contacts. Par exemple, à Hong Kong, ça a été une histoire incroyable, parce qu'à Hong Kong, en fait, on a fêté l'avènement de François Ier en 1515. Donc en 2015, moi, on a envoyé un petit mot, c'était vraiment une feuille à quatre, en disant au Festival de Hong Kong, voilà, on va fêter François Ier, on va faire un spectacle, on n'a pas de costume, pas de décor, pas de musique, on n'a rien, on a une idée, et on n'a même pas de croquis, mais on a une idée, on va monter une fête Renaissance, et ils ont dit, top là, on y va. Et ils ont signé, je vous garantis qu'ils ont signé sans rien, alors qu'en France, personne ne voulait prendre ce spectacle. Donc le seul fait de dire, voilà, nous sommes français, on va faire un spectacle sur Chambord, sur les fêtes à la Renaissance à l'époque de François Ier, et ben ça suffit à emporter l'adhésion de 5 festivals en Asie, puisqu'on a joué aussi à Séoul, on a joué à Singapour, enfin dans d'autres lieux comme ça. Et donc voilà, il y a le nom de l'ensemble, il y a aussi le fait que ben voilà, c'est aussi parce qu'on représente quelque chose d'important. Hein.
On parlait d'inédit tout à l'heure, est-ce que vous êtes encore les seuls à proposer ce genre de musique en France ou pas? Ça, c'est quelque chose qui s'est développé?
Alors bizarrement, ça s'est très peu développé. Ça s'est énormément développé pour la musique baroque et pour la musique médiévale. Dans la musique Renaissance, on reste encore très minoritaire. Il y a vraiment deux ensembles qui ont une stature internationale, qui sont l'ensemble Clément Jeannequin et nous-mêmes, qui sont des ensembles qui tournent à l'international depuis longtemps. Mais il y a
pour le moment pas d'ensemble qui émerge à un niveau international. Peut-être parce que ça demande un certain nombre de qualités. Il faut à la fois être musicien, il faut être chercheur, il faut passer beaucoup de temps. Ça demande en fait beaucoup d'investissement, je crois. Et puis il faut sans arrêt prendre son bâton de pèlerin parce qu'on passe son temps à devoir convaincre des gens qui ne connaissent pas les musiques que l'on fait. Donc c'est plus difficile de jouer de la musique renaissance que de jouer du Handel, du Telemann, du Vivaldi. Mmh.
Alors justement, la musique de la Renaissance implique évidemment des instruments. Est-ce que ces instruments sont aussi de la Renaissance et viennent tout droit de cette période ou pas, les instruments avec lesquels vous jouez ?
Alors ça, c'est une des parties les plus passionnantes de notre travail, c'est qu'on est obligé de reconstituer justement cet instrumentarium de la Renaissance. Donc nous sommes allés voir les facteurs. Nous sommes allés voir, on leur a dit, voilà, il y a tel instrument à Vienne, il y a tel instrument à Bologne, il y a tel instrument à Berlin. Vous êtes priés, vous allez prendre les cotes et vous allez les reproduire de façon absolument exacte. Et par pitié, ne changez rien. Parce qu'en général, ce qu'ont fait les facteurs pendant des années, c'est qu'ils les ont adaptés au goût moderne. Et donc on leur a dit, vous ne changez rien et nous on se débrouille. Et là, on était obligé de se débrouiller parce qu'on s'est trouvé avec des instruments qui étaient à des diapasons absolument invraisemblables, qui étaient pas du tout les diapasons d'aujourd'hui. Quand je parle de diapason, c'est le la. Hein. Le la actuel est à 440 Hz. C'est le la que vous frappez sur un piano. Ça, c'est une convention qui date de l'après-guerre. Hein. C'est très récent. Hein. C'est 1945, 46, je sais pas. Ça a vraiment été fixé de façon définitive par une commission après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, les diapasons bougeaient beaucoup. Donc, on s'est trouvé avec des instruments qui marchaient pas, à des diapasons incroyables. Et peu à peu, on a pu rétablir le son de la Renaissance, qui n'est pas le son du médiéval, qui n'est pas le son du baroque, qui n'est pas le son évidemment du 19e siècle. Et donc, c'est un peu comme la Sixtine, si vous voulez, on a retrouvé les couleurs. Quoi.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce son de la Renaissance, alors ?
Il est plus clair qu'aujourd'hui, il est très timbré, il permet, quand vous êtes 6 chanteurs, de remplir la basilique Saint-Denis sans problème. Ce qui a beaucoup étonné le Festival de Saint-Denis. Quand ils nous ont vu arriver, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, mais comment, après avoir invité l'Orchestre de Paris et la Symphonie des Mille, où vous avez, je sais pas, 100 musiciens sur scène, comment le public va recevoir une musique jouée par 12 personnes, 6 chanteurs et 6 instruments? Ça pose aucun problème parce qu'on développe un son qui est extrêmement timbré et donc qui permet de remplir ces grands édifices que sont les basiliques ou, je sais pas, le Mont-Saint-Michel ou la cathédrale de Bourges, par exemple, où on a joué. C'est un son donc qui est plus clair, plus timbré, et qui n'est pas du tout le son du 19e dans lequel on vit globalement aujourd'hui.
Alors vous avez reçu plusieurs en tout cas récompenses, notamment le diapason d'or de l'année, choc du monde de la musique, etc. Vous avez reçu des récompenses pour votre musique. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous motive ou ça reste anecdotique?
Ça aide beaucoup les ensembles au début, en fait, en général. Hein. C'est quelque chose qui vraiment aide les ensembles à émerger. Donc on a eu beaucoup de récompenses au début qui ont beaucoup aidé l'ensemble à émerger. Maintenant, ça reste plus ou moins anecdotique, surtout du fait que les disques sont beaucoup moins critiqués qu'ils n'étaient l'avant du fait de la faiblesse de la critique musicale en France. On est beaucoup plus critiqué à l'étranger, d'ailleurs, de façon d'ailleurs plutôt assez intelligente, parce que les critiques musicaux à l'étranger sont en général assez cultivées. Et donc, ça reste moins important pour nous aujourd'hui. Mais ça a été d'une très grande aide, et j'en suis extrêmement reconnaissante à la presse musicale, dans les 10 premières années de l'ensemble.
Et Douce Mémoire intervient aussi auprès des élèves des écoles. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites toujours, ou c'est en perdition.
C'est quelque chose qu'on aime faire, mais qui est très difficile à faire parce que nous n'avons pas de lieu. Les institutions culturelles qui font beaucoup ça sont par exemple l'Opéra de Tours, parce qu'ils ont un lieu pour les accueillir, ou alors évidemment le Théâtre Olympia, parce qu'ils accueillent énormément de scolaires, ou évidemment le centre de danse de Tours. Le problème des ensembles de musique ancienne à Tours, c'est qu'ils n'ont pas de lieu, ils n'ont toujours pas de lieu, ils n'en auront jamais, je pense, vu le désintérêt des politiques par rapport à ce que nous faisons. Donc c'est très difficile. Alors quelquefois on est invité, en fait on en fait souvent dans les festivals. Les festivals nous invitent, ils ont des lieux, et ils font venir les scolaires. Mais bizarrement, ces festivals sont très souvent en dehors de notre ville et en dehors de notre région. Donc ce qui fait que je trouve que notre action à Tours, par exemple, est trop faible par rapport à ce qu'elle devait être vis-à-vis des scolaires.
Les scolaires, justement, est-ce que la jeunesse s'intéresse à la musique de la Renaissance ? Est-ce qu'il y a un attrait pour cette musique-là ?
Ah ben, les jeunes ne peuvent pas s'y intéresser, puisque de toute façon, on ne leur présente pas. Les jeunes s'intéressent à ce qu'on leur fait entendre, ce qui est absolument tout à fait normal. C'est comme pour la politique.
Hein. Et vous, ce que vous avez pu faire entendre aux élèves, est-ce que c'était apprécié ?
assez drôle les réactions des jeunes. C'est drôle, c'est très sympathique d'ailleurs, parce que quand vous leur faites entendre de la musique de danse ou de la musique de fête de la Renaissance, pour eux, ça leur pose aucun problème, quoi. Ils ont l'impression que c'est ils disent, ah, ça pulse un maximum, ils ont des mots qui sont leurs mots à eux, parce qu'on a un percussionniste qui joue d'enfer chez nous. Donc ça se passe en général très bien. Et tous leurs a priori tombent, bien sûr. Mais pour que leurs a priori tombent, encore faudrait-il qu'ils puissent l'entendre. Or, ils l'entendent jamais.
Alors, on va parler de la programmation, en tout cas des événements à venir et des concerts que vous allez donner. Ça commence le 29 mars, en tout cas le prochain, à La Riche, au Prieuré Saint-Cosme. Musique d'un règne, c'est ça. C'est un spectacle,
C'est un concert dont une grande partie est jouée par cœur, donc c'est pas un concert figé derrière pupitre, parce que on fait tout pour que les concerts soient pas figés. On est vraiment aux antipodes du concert classique traditionnel, assis derrière son pupitre. On est vraiment des gens très mouvants. On bouge beaucoup sur scène. On a eu d'ailleurs à New York des critiques qui comparaient des sortes de groupes de rock. C'était très sympathique. On a développé vraiment une sorte d'aisance sur scène. Donc ça, c'est simplement un concert qui redonne vraiment l'ambiance qu'il pouvait y avoir à la cour du roi François Ier, qui, je rappelle, est monté sur le trône à 20 ans. Vous voyez qu'on dit que Macron est jeune à 40 ans. C'est rien par rapport à François Ier qui avait 20 ans. Donc on imagine toujours que les anciens.
Mais Macron n'est pas roi.
Voilà, mais oui, la croix, mais il est que Jupiter, c'est déjà pas mal. Mais on imagine toujours que, dans l'esprit des jeunes, on imagine toujours que les anciens étaient vieux. C'est extraordinaire d'ailleurs ça. On n'imagine jamais que les anciens ont eu 18, 20 ans, 17 ans. Et on n'imagine jamais que beaucoup de rois de France sont montés sur le trône très jeunes. Donc François Ier, 20 ans. Donc François Ier adorait faire la teuf, comme on dit aujourd'hui. C'était un fêtard de premier ordre. D'abord, il adorait danser. Donc en fait, à la cour de France, il faut imaginer qu'il était entouré de jeunes de son âge, qui faisaient les pires facétie, parce qu'on a quand même des témoignages des fêtes qu'ils faisaient, c'était quand même très facétieux. Et donc un peu ce concert rétablit et redonne l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans les fêtes de cour, qui n'était pas mélancolique.
Alors du coup, musique d'un règne dédié à François Ier, en tout cas.
Complètement.
Ces musiques-là.
François Ier, c'est notre saint patron.
Alors après, on parlait d'étrangers tout à l'heure. Vous allez à Londres le 18 mai.
Oui.
C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer à Londres à ce moment-là?
Bah, Londres, c'est comme d'habitude. C'est génial. C'est qu'à Londres, Londres va inviter Douce Mémoire pour un programme que les Français n'inviteront jamais. C'est-à-dire que, comme d'habitude, si vous voulez, Berlioz, qui est le grand musicien français du 19e, a été révélé aux Français grâce au grand travail des Anglais qui ont trouvé la musique géniale pendant que les Français s'en désintéressaient complètement. Et nous, on fait un musicien complètement inconnu des Français qui s'appelle Claude Lejeune, qui est un type d'une modernité folle, qui a complètement révolutionné la musique dans les années 1570, qui était très apprécié par le roi Charles IX, qui a fait une musique qui, disait-on à l'époque, hein, je parle de l'université, la Sorbonne a dit que cette musique allait corrompre la jeunesse, c'est vous dire. Donc c'est une musique hyper moderne et cette musique n'est pas du tout connue des Français aujourd'hui, donc il faut que les Anglais invitent l'ensemble Douce Mémoire à Londres pour la faire entendre. Thank you, les Anglais.
Est-ce qu'il y a plus de sensibilité, du coup, outre-Manche, en tout cas côté anglais, sur cette musique-là?
Ben, les Anglais sont un peuple beaucoup plus musicien que les Français. Il y a beaucoup plus d'amateurs aussi, parce que la musique est très répandue auprès des amateurs. Les hommes politiques et les femmes politiques anglaises ont souvent reçu une formation musicale, ce qui n'est pas le cas des hommes politiques et des femmes politiques françaises. Donc oui, tous les pays du Nord, et l'Angleterre en particulier aussi, sont des peuples qui sont plus cultivés musicalement que les Français. Il faut le dire, c'est vrai.
Alors, dans la même veine, vous faites une tournée en Chine du 28 mai au 15 juin. Alors, on va citer les quatre lieux où vous allez jouer. Pékin, Changsha, Wuhan et Shanghai. Et un spectacle qui s'intitule « À quoi rêvent les pandas ?». Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça?
Ça, c'est un délire total. On a monté un programme avec une troupe de marionnettes d'ombre. Ces marionnettes d'ombre sont classées patrimoine immatériel par l'UNESCO, parce que évidemment en Chine, la manipulation des marionnettes est vraiment quelque chose de très connu. Donc, ils manipulent leurs marionnettes. C'est un art d'une poétique absolument incroyable. Nous, on fait de la musique renaissance avec eux, ce qui est absolument insensé pour des Chinois, surtout que c'est des Chinois du centre, hein, c'est pas du tout des Chinois de Pékin, c'est des Chinois de Changsha, Changsha étant une ville du Hunan, le Hunan étant la ville de Mao Tse-tung. C'est donc une ville du centre et une ville très marquée par la révolution culturelle, une ville dans laquelle les Européens sont pas très présents, mais on n'est pas à Shanghai, on n'est pas sur les côtes, hein, évidemment, on n'est pas à Hong Kong.
Plus dans les terres.
On est dans les terres, et donc les Chinois nous regardent quelquefois avec des yeux ronds, parce qu'ils voient pas beaucoup d'Occidentaux dans le Hunan.
Ça a été un projet extrêmement difficile à monter parce qu'il y a toute la différence culturelle, de langue, etc., politique, bon. Mais c'est un projet fou et passionnant qu'on a donné en France, aussi à Paris, au Quai Branly, musée Jacques Chirac, et qui, moi, me ravit parce que jamais on a monté un projet aussi compliqué et aussi passionnant et aussi dans lequel les relations culturelles étaient tellement éloignées. Mais il y a eu un moment qui était très émouvant, c'est quand les marionnettistes, derrière l'écran, manipulaient les marionnettes en chantant notre musique. Et là, je me dis, tiens, des Chinois du 21e siècle de Changsha se sont appropriés de la musique renaissance, ça c'était incroyable.
C'est un projet qui que vous faites, en tout cas que voilà, c'est un premier projet, cette tournée en Chine, ou c'est
Moi, j'ai un très fort tropisme asiatique. On a envie de repartir à Taïwan. On est beaucoup allé déjà. Les Chinois s'intéressent à la culture française. La France a vraiment un rayonnement important au niveau du luxe, évidemment, et au niveau de la culture. Et donc ces pays me passionnent, oui, vraiment. Et donc j'y retournerai bien.
Et c'est en projet pour l'année prochaine ou
Je ne sais pas, on veut travailler sur Taïwan. Taïwan est un pays qui me passionne aussi.
Bon, en tout cas, pour tous ceux qui seraient intéressés, évidemment, par Douce Musique, je vais donner quand même votre site internet, www.doucememoire.com. Alors, Douce Mémoire, douce avec un L. Hein.
Oui.
D'ailleurs, expliquez-nous cette présence du L.
Alors ça, je pourrais expliquer à nos jeunes auditeurs que le français est tellement compliqué à écrire, que l'orthographe est tellement invraisemblable, parce que le français n'a jamais été la langue des Français, résumons-nous. Le français, c'est une langue de cour. C'est une langue qui a été vraiment mise au point par des aristocrates, et qui ont tout fait pour la rendre compliquée pour deux raisons. D'abord, évidemment, pour éloigner le populaire du parler françois, et d'autre part, pour la rattacher le plus possible au latin. Mmh. Et donc, ils ont rajouté le L à douce, pour simplement faire plus chic. Et donc, il faut bien comprendre que notre français est compliqué, parce que c'est pas la langue du peuple, mais c'est la langue de l'aristocratie.
Alors du coup, www.doulsmémoire.com, voilà, pour être précis.
Il y a plein de vidéos, il y a plein de choses vraiment marrantes à voir aussi, parce qu'il y a tous nos projets avec l'étranger qui sont dessus. Hein.
Et voilà, il y a toute la programmation, ouais, l'agenda, ouais, etc. pour ceux qui aimeraient suivre ou voir
et découvrir.
Ça. Et découvrir tout simplement la musique de la Renaissance. Merci beaucoup à vous,
en tout cas,
d'être venu nous parler de cette musique dans Sortez.